BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Benoît Potier, le PDG d'Air Liquide, est avec nous ce soir sur BFM Business dans ce nouveau numéro du Grand Journal. Air Liquide qui a donc publié des résultats semestriels bien accueillis aujourd'hui, portés par une reprise, une légère reprise de l'activité industrielle. Dans le détail, le bénéfice net au premier semestre progresse de 12,5%, 849 millions d'euros. Le chiffre d'affaires également au premier semestre atteint 8,1 milliards d'euros, en progression d'ailleurs de 8,1%. Vous êtes porté par un certain nombre de pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme le Royaume-Uni ou comme l'Europe du Nord notamment. On va évidemment faire le détail de tout cela, mais j'ai cherché dans vos déclarations la France. J'ai pas vu grand-chose.
Alors, la France reste évidemment un grand pays, puisque nous avons plus de 15% de nos ventes qui sont aujourd'hui en France, avec une particularité, c'est qu'on associe souvent Air Liquide à un grand groupe industriel, mais il faut savoir que nous sommes plus importants en France en santé, dans le domaine de la santé, qu'en industrie. La santé va bien et une grande partie de la croissance de l'activité santé vient des grands pays européens, parce que l'Europe représente 80% de la santé dans le monde, pour nous. La France représente dans cette partie de santé un pôle relativement important. Alors on en parle peut-être un peu moins, mais cette activité va bien. Vous avez cité les pays d'Europe. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est à la périphérie de l'Europe qu'on retrouve les taux de croissance les plus importants, ceux que vous avez cités. Quand on regarde la France, l'Allemagne et l'Italie, qui sont vraiment trois cœurs industriels, on peut déceler depuis 3-4 trimestres une légère reprise. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On la regardait, on la guettait, cette reprise.
Vous la sentez réellement ?
On la sent dans certains secteurs seulement. C'est-à-dire qu'on a plutôt les industries, ce qu'on appelle en français les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, ou bien ceux qui consomment, je dirais, des quantités un peu modérées. Ceux-là sont en croissance. C'est des produits liquides, c'est des camions qu'on voit sur les routes pour nous. En revanche, les petits clients, c'est-à-dire ceux qui consomment du gaz en bouteille, eux restent quand même un peu au fond du trou. Donc on a en fait un écart, un contraste entre les clients de taille intermédiaire et les petits clients.
Une reprise à deux vitesses ?
Une reprise, peut-être pas à deux vitesses, mais qui tarde à venir pour ces petits clients qui sont souvent liés aux industries de la construction. Et on sait que la construction, notamment en France, se porte plutôt mal en ce moment, ou liés aux travaux, à la fabrication. Donc ce sont des industries qui sont un peu en retard par rapport aux industries de procédés.
C'est une bonne nouvelle, le retour de l'Espagne et du Portugal. Là, vous en parliez. Est-ce que c'est une surprise ou est-ce que ça confirme ce qui se sentait déjà dans les trimestres précédents et les semestres précédents ?
Clairement, c'est une confirmation de ce que l'on avait vu et au premier trimestre de cette année et aussi aux deux trimestres de l'année précédente. Donc on a vraiment un mouvement de retour de ces économies. Le point d'interrogation, plus l'Italie, qui a été à un certain moment dans une meilleure dynamique et puis qui est un peu en train de repartir vers le bas. La France, en fait, va mieux. Pour ce qui concerne l'industrie aussi, quand on regarde les chiffres, on a en fait une amélioration du deuxième trimestre en taux de croissance par rapport au taux de croissance qu'on avait au premier trimestre. L'Allemagne est un peu entre les deux. Et je dirais globalement, la bonne nouvelle de ces publications semestrielles, c'est que l'Europe va mieux. Et quand on regarde les trimestres s'enchaîner, on voit qu'en fait, l'Europe va mieux.
Alors, la grande question est également, en tout cas, celle de cet été et puis celle de ces dernières semaines. Elle concerne la Chine, avec une croissance en Chine que l'on dit un peu ralentie. Quelle est votre présence en Chine et est-ce que c'est quelque chose également que vous sentez ?
Alors, présence qui est importante puisqu'on y a investi assez massivement, plus de 2,5 milliards d'euros depuis une vingtaine d'années. Pendant à peu près ces 20 ans, on a enregistré à peu près 30% de croissance par an, ce qui est exceptionnel. Donc on est très satisfait de notre implantation en Chine. On a une des meilleures implantations. On doit avoir, si ce n'est la position de numéro 1, celle de co-numéro 1 actuellement en Chine. Qu'est-ce qu'on a constaté récemment ? C'est vrai que nos taux de croissance sont passés de 30 à 20, et puis de 20 à 15. Et sur le premier semestre, on est plutôt à peu près à 15% de croissance. Alors, c'est beaucoup plus que ce que l'on constate de façon générale.
Mais c'est quand même divisé par deux.
Mais c'est quand même ralenti. Donc je serai honnête en disant qu'effectivement, on a constaté un certain ralentissement qui, pour nous, reste relatif. Alors pourquoi ? Parce qu'on a bien sélectionné nos marchés et nos contrats, nos clients, mais aussi parce qu'on sert des marchés qui restent des marchés en forte croissance, comme l'électronique, comme le photovoltaïque. La Chine continue à investir en fait beaucoup d'argent dans ces domaines-là et Air Liquide est vraiment leader en Chine.
Ça vous inquiète tout de même ?
Non, nous ne sommes pas inquiets dans la mesure où nous avons fait l'analyse du portefeuille et de la qualité du portefeuille des clients et que cette qualité reste excellente.
Alors, votre semestre a également été notamment marqué par l'ouverture, je le disais il y a quelques minutes, d'un grand projet, l'inauguration d'un grand projet, donc nouvelle unité de production, 350 millions d'euros mis sur la table, donc en Arabie Saoudite. C'est cette unité-là qui va devenir la plus grande du monde, hein, si je ne me trompe pas, en termes de production d'hydrogène.
Pour nous, pour nous.
C'est cette unité qui va devenir le modèle des prochaines unités.
Très certainement, je dirais que c'est un modèle en matière d'exécution de projet, puisque en fait le projet s'est très très bien passé. Il a été construit avec le client, puisque nous avions prévu de construire un an avant que la raffinerie soit prête. Et ça, c'était un accord que l'on avait avec le client pour éviter de subir le pic de demande de main-d'œuvre où en fait on ne peut plus trouver de main-d'œuvre sur place, alors que là on a en fait nous construit un an avant et on a eu une indemnité pendant un an puisque l'usine était construite et ne tournait pas. Ça a été vraiment très très bien. Donc les conséquences ont été des performances de sécurité exceptionnelles, zéro accident sur un chantier qui a été quand même très très important. On est arrivé à l'heure et dans le budget, ce qui est aussi une excellente nouvelle. Alors c'est la plus grosse unité au monde pour Air Liquide, c'est à peu près 20% de croissance sur la capacité de production d'hydrogène. Et c'est une pénétration en Arabie Saoudite, ça c'est un point important, c'est que nous n'étions pas précédemment quasiment en Arabie Saoudite, et ce contrat nous a vraiment donné une implantation majeure dans ce pays.
Avec quelles perspectives ?
Avec des perspectives intéressantes dans le monde pétrolier et gazier, avec un client comme Aramco, qui est quand même un des premiers, si ce n'est le premier pétrolier mondial, qui est d'ailleurs associé à un Chinois, à Sinopec, dans cette raffinerie. Et un élément important aussi, ça nous a fait découvrir un grand centre de recherche qui se trouve à 100 km de ce site, et qui est un grand centre de recherche avec des moyens exceptionnels, et avec lequel nous avons noué un partenariat.
D'où cette déclaration qu'on a pu entendre il y a quelques temps, croissance par l'innovation chez Air Liquide, ça passe aussi par ça ?
Ça passe tout à fait par ça, et là on a un très bel exemple de business, de contrat qui a été signé et qui donne lieu à aujourd'hui à des facturations et à une collaboration avec le pays sur des domaines. Alors là, vous serez peu étonné de savoir que les domaines qui nous intéressent, c'est les domaines pétroliers, gaziers et hydrogène. Donc on a des collaborations dans ce domaine-là avec cette université qui se situe à Khaoust.
D'autres collaborations à venir ?
Certainement dans ce centre de recherche, puisqu'ils ont des moyens tout à fait exceptionnels. Et puis évidemment, ce que vous avez dit sur l'innovation s'applique un peu partout dans le monde. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en Arabie Saoudite, nous sommes sur tous les continents, américains, européens, puisque c'est 70% de la recherche d'Air Liquide, et notamment en France, pour lequel nous avons décidé de réinvestir 100 millions en France, ce qui est une belle somme dans les domaines de la technologie et de la recherche. Et puis nous sommes aussi en train de finir la construction d'un centre de recherche en Chine, possédant déjà un centre de recherche au Japon.
Alors, on ne va pas faire un catalogue dans l'ensemble des pays, mais évidemment, quand on a comme ça devant nous le patron d'une grande entreprise... On s'interroge sur l'Iran. Les choses ont beaucoup évolué ces dernières semaines, pour ne pas dire même ces derniers jours. Laurent Fabius était cette semaine justement en Iran. Est-ce que c'est pour vous un important marché potentiel ?
Alors, il y a deux choses à dire. D'abord, nous y avons été avant la période des sanctions, puisque nous vendions des équipements là-bas, des usines. Donc nous connaissons un petit peu le marché et les clients qui sont aujourd'hui des Iraniens qui opèrent. Alors toute cette période, évidemment, nous avons suivi les règles internationales, donc nous n'avons pas été présents. Aujourd'hui, on peut dire que la pétrochimie et tout ce qui est utilisation de gaz et transformation du gaz naturel en produits à valeur ajoutée en Iran est un potentiel absolument exceptionnel. Donc dès que nous pourrons retourner en Iran pour pouvoir prospecter, nous le ferons, bien sûr, comme je pense tous nos concurrents.
Ça,
mais également,
il va y avoir du monde quand même.
Il va y avoir du monde,
là.
Absolument.
Comment se démarquer ?
Ben, écoutez, Air Liquide a une excellente réputation en Iran, parce que nous avons été là il y a longtemps. Hein. Nous y étions même avant 79. La marque Air Liquide est connue, la technologie Air Liquide est connue, et dans le monde que nous servons, celui de nos clients, nous sommes parmi les plus grands. Donc, inévitablement, nous serons consultés.
Ça ne suffit pas toujours.
Ça ne suffira pas pour gagner, voilà. Mais au moins, ça suffira pour être présent dans les appels d'offres et pouvoir se battre pour gagner.
Alors, vous parliez du secteur de la santé il y a quelques minutes. Il y a eu des achats, des acquisitions faites cette année dans le secteur de la santé. 4, je crois. Hein,
oui,
pas, 3
tout
en
à fait.
Europe.
Absolument.
Et une, la dernière, c'était en Chine, non ?
Non, ce n'était pas en Chine. Ça devait être...
On vérifiera.
Au Canada, je crois.
On vérifiera.
Au Canada.
Ce secteur de la santé, il se fait pour vous principalement par de la croissance externe ?
C'est en fait un équilibre. C'est-à-dire que nous avons une capacité de croissance organique, puisque les bases installées en Europe nous permettent en fait de minimiser les coûts additionnels quand on peut servir des nouveaux clients, si vous voulez, la base existe. Et donc, en marginal, on peut en fait croître assez facilement notre base de clients, donc nos volumes. Et quand nous sommes amenés à investir dans des nouveaux pays, en fait, nous allons plus vite à acheter des portefeuilles de clients, donc à acheter des sociétés qui ont déjà ces bases de patients, et donc les intégrer dans le portefeuille de l'Air Liquide. C'est ce que nous faisons. Nous avons typiquement, sur une croissance comme celle du premier semestre de 7%, nous avons typiquement 2% à peu près qui vient de la croissance externe et 5% qui vient de l'organique.
Vous me parliez juste tout à l'heure, ça m'a fait penser à l'image en France, et vous me disiez, voilà, il y a un secteur qui est assez méconnu, c'est quand même celui de la santé. Est-ce que vous avez l'impression que les Français connaissent bien ce qu'est Air Liquide? Ils l'identifient bien?
Alors, je crois que le premier mot qui vient à l'esprit quand on parle d'Air Liquide, c'est l'action. Je crois que c'est l'action d'Air Liquide qui est la plus connue, puisque c'est une action de tout temps qui a été une action de fonds de portefeuille avec une très belle rentabilité, une performance sur le très très long terme. Donc c'est ça qui vient en premier. Nos actionnaires nous connaissent très bien. Le grand public moins bien, puisque nous vendons moins au grand public. Alors j'espère que demain, avec des produits plus grand public comme la voiture électrique à hydrogène, nous serons beaucoup mieux connus. Dans le domaine de la santé, nous sommes très bien connus des hôpitaux, assez bien connus des patients qui ont besoin de nos services. Donc nous sommes en fait peu visibles du grand public, mais très connus des populations qui nous côtoient.
Vous parlez de l'actionnariat, vous vouliez l'élargir à un moment, cet actionnariat, voire même le rajeunir?
Alors, les deux sont vrais. Nous souhaitons l'élargir, puisque nous avons en fait 40% environ, un peu moins de 40% d'actionnaires individuels, la plupart français, dans le capital, ce qui est un pourcentage tout à fait exceptionnel. Nous avons comme intention d'au moins le maintenir et si possible de le faire croître.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, l'actionnaire individuel est un actionnaire de long terme. C'est un actionnaire qui participe à la vie de la société. C'est presque, je dirais, le meilleur actionnaire pour une société qui investit beaucoup et qui a des contrats de long terme. Puisque, je dirais, la vision de l'actionnaire individuel est très en ligne avec la vision du métier. C'est ça qui fait que nos actionnaires aiment bien l'action d'Air Liquide, encore une fois, qui est une action de fonds de portefeuille.
Et le rajeunir?
Alors le rajeunir, parce que nos actionnaires nous aiment tellement qu'ils gardent leurs actions pendant 10, 20, 30, 40 ans. Et que la question pour nous, c'est de transmettre, de faire transmettre ces actions aux petits-enfants, la plupart du temps, soit une génération, et de faire en sorte que les petits-enfants se retrouvent également dans cette action et la gardent, ne la vendent pas. Et donc on constitue une sorte de famille autour d'Air Liquide, ce qui a été le cas depuis plus de 100 ans,
Club Air Liquide. 110
ans, un espèce de club Air Liquide.
Alors, vous parliez également de la voiture à hydrogène. Vous nous l'aviez présentée il y a quelques semaines. Vous étiez arrivé au volant de cette voiture ici même, donc dans les locaux de BFM Business. Comment se porte le développement de cette voiture, et notamment, évidemment, parce que c'est par là que tout va passer, l'installation des recharges à hydrogène?
Alors ça se développe très très bien, parce que j'étais il y a moins d'un mois au Japon, rencontrant les managers du plus haut niveau de Toyota. Nous avons un partenariat avec Toyota.
Particulier parce qu'il y a cette voiture au Japon qui a été, d'ailleurs, je crois que la production a été multipliée par 3.
Par 3, absolument. C'est la Mirai. C'est une voiture assez exceptionnelle. Je veux dire, j'ai eu l'occasion de la conduire moi-même et elle est vraiment formidable. C'est une voiture qui a une autonomie de l'ordre de 600 km qu'on peut recharger en 3 minutes. Donc, je veux dire qu'il y a tout l'avantage de l'électrique et aucun de ses inconvénients en matière d'autonomie ou de temps de recharge. C'est donc vraiment une technologie exceptionnelle.
Le problème, c'est qu'on n'est pas diffusé au Japon.
Elle est en train d'être diffusée au Japon. Je crois que le Japon a vraiment décidé de s'embarquer globalement, toute l'industrie et le gouvernement, dans cette société de l'hydrogène. Donc vous allez au Japon, tout le monde vous parle d'hydrogène.
Et la France alors?
Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'Air Liquide y est.
Oui,
et nous sommes,
certes,
partie prenante dans les consortiums de recherche auprès du METI au Japon. C'est la première fois qu'Air Liquide, en plus de 100 ans, est associé en tant qu'entreprise au programme de recherche japonais. Je crois que il faut le noter. Donc nous avons ce partenariat pour couvrir le monde entier. Nous avons des projets aux États-Unis avec Toyota, au Japon bien sûr, dans le nord de l'Europe, en Allemagne. Et puis progressivement, à mesure que les pays se convertissent à cette idée, nous investissons. En France, on avait fait une première station de recharge à Saint-Lô.
Oui.
On en a une deuxième qu'on a inaugurée
en Grenoble,
dans le cadre du projet Highway, pour les prolongateurs d'autonomie des voitures électriques des Kangoo. Donc c'est deux exemples. Et en fait, nous sommes prêts. Nous voudrions en mettre une à Paris pour la COP21, bien sûr. Bon, c'est en cours. J'espère qu'on va y arriver.
Les freins sont mauvais genoux parce qu'on parle d'automobile. Mais les freins, c'est quoi? C'est plutôt du côté de l'État qu'on les trouve aujourd'hui?
Non, beaucoup moins. En fait, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes au sein du gouvernement et puis dans les directions techniques qui délivrent les autorisations qui sont relativement conscientes des bénéfices. Mais comme toute innovation, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Et puis, je dois dire que l'engagement d'il y a 2-3 ans de l'Allemagne pour vraiment convertir l'industrie automobile vers des industries propres a fait ses effets. Et donc, nous avons en fait un mouvement, une dynamique en Allemagne qui est beaucoup plus importante que celle en France. Je ne désespère pas d'avoir la même en France, mais avec un peu de retard.
Dernier mot, vous êtes également à la tête depuis un an maintenant de la table ronde européenne des industriels. Alors, je ne vais pas vous demander le bilan hein, de cette année passée à la tête donc de cette table ronde, mais plutôt un état d'esprit par rapport à vos collègues européens. Est-ce que vous... Pour boucler la boucle, on parlait de cette reprise qui se fait sentir. Est-ce que le moral, depuis un an, vous l'avez vu évoluer?
C'est toujours difficile parce que les membres de la table ronde sont des grands groupes mondiaux. Donc ils sont, comme Air Liquide, en fait, capables de capter la croissance pratiquement partout. Certains sont exportateurs à partir de l'Europe. D'autres sont dans des domaines de type pétrolier ou chimique et sont déjà très, très, très mondiaux. Donc, nous avons en fait une capacité de rebond quasiment permanente. Alors, ceci étant, ce que je constate depuis un an, c'est que les grands thèmes sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire l'emploi, l'éducation, l'énergie, l'environnement, qui a été un grand, grand thème de réflexion de la table ronde, ces thèmes continuent et nous avançons, mais il y a un thème qui a émergé et sur lequel j'ai personnellement beaucoup appuyé très récemment, c'est le thème du digital. Et je trouve que le mouvement qui est en train d'être pris par les entreprises européennes industrielles pour que ce qu'on appelle les big data, pour que l'Internet des objets se développe et que nous disposions d'un marché unique européen digital assez vite, cette initiative est très très forte. Nous travaillons d'ailleurs avec la Commission européenne. J'étais moi-même ce mois-ci à Bruxelles pour une session de travail de 3 heures avec la Commission européenne et plusieurs commissaires. Nous avons des réunions plus hautes des États et donc c'est quand même un thème qui est très important. Donc je crois que peut-être c'est moins la reprise immédiate qui est un bon témoin que la volonté des industriels de créer vraiment quelque chose de nouveau en Europe.
Se positionner sur un secteur donc, ça, extrêmement porteur.
Absolument. Et je pense que nous avons énormément de choses à faire. Je pense que la bataille est loin d'être gagnée. On est peut-être à 10% seulement du marché du digital. Et je pense que l'Europe a à peu près tous les atouts pour réussir.
Merci beaucoup, Benoît Potier. Benoît Potier, donc le PDG d'Air Liquide, qui revenait pour nous ce soir, notamment sur la publication de ses résultats semestriels ce matin. Merci encore.
Merci.
Vous restez avec nous, on marque une petite pause. Et puis, juste après, eh bien, on reparle évidemment de ce rapprochement, de cet accord officialisé donc ce matin entre Areva et EDF. C'est à suivre sur BFM Business dans le Grand Journal.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, David Doba.
Le Grand Journal qui s'intéresse donc ce soir à ce rapprochement, ça y est officiel, hein, entre Areva et EDF en compagnie de Marc Goy, député PS du Maine-et-Loire, co-auteur également du rapport parlementaire sur le rapprochement donc des deux groupes. Alors voilà, on en sait un petit peu plus sur cet accord, l'accord qui prévoit que EDF prenne un contrôle majoritaire d'Areva NP, nouvelle entité donc qui va être créée, une entité autour des réacteurs d'Areva, une prise de contrôle qui serait comprise entre 51 et 75%. On va entrer dans le détail de cet accord dans quelques instants. Auparavant, est-ce qu'on peut dire ce soir qu'Areva est sauvée?
Bah écoutez, il faut l'espérer. L'industrie nucléaire, c'est un des fleurons de notre économie. 40 000 personnes chez Areva, 250 000 personnes directement ou indirectement qui travaillent pour le nucléaire. Donc, et c'est stratégique en plus, l'énergie c'est stratégique. Donc le gouvernement ne pouvait pas se désintéresser et ça a été confirmé aujourd'hui par le ministre de l'économie, Macron.
C'est un bon accord?
Ben, Écoutez, c'est la suite qui le dira. Il est parfaitement cohérent, c'est-à-dire que on avait deux opérateurs qui, pendant très longtemps, n'ont pas coopéré, EDF et Areva, pour des raisons diverses et variées sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et aujourd'hui, dans un monde totalement différent, il y a eu la crise, il y a eu effectivement l'écroulement des matières premières, il y a eu Fukushima. Tout ça fait que il faut une industrie française de qualité, vraiment une force de frappe. Et j'ai le sentiment que ce qui a été fait, alors certains disent oui, mais c'est un retour en arrière avant avec Framatome. Non, c'est, j'espère, une position dynamique pour l'avenir.
On nous parle de d'Areva NP, donc valorisé à hauteur de 2,7 milliards d'euros. Et puis je le disais, donc EDF qui devrait prendre entre 51 et 75%. Ça laisse quand même de la place pour d'autres partenaires. On parle beaucoup de partenaires chinois. On a parlé à un moment de partenaires japonais. Est-ce que tout cela vous semble crédible?
Écoutez, je pense que aujourd'hui l'industrie nucléaire, il y a les Russes d'un côté, hein, dont on peut parler aussi, et puis il y a les Chinois et les Japonais. Et je crois qu'on peut pas se désintéresser. Les principaux clients demain sont les pays émergents, et donc on peut pas se désintéresser à la fois des Chinois et des Japonais. L'idéal, mais je suis pas sûr que ce soit possible, c'est que des partenaires chinois et des partenaires japonais rentrent pour éviter peut-être de se faire un peu piquer notre savoir-faire par les Chinois. Ceci étant, des négociations seront en cours, je suppose, et étant une industrie stratégique, ce sera effectivement l'actionnaire principal du groupe, c'est-à-dire l'État qui aura le dernier mot dans cette affaire.
Je vous demandais tout à l'heure si Areva était sauvé. On a clairement entendu également aujourd'hui que l'accord ne suffit pas à sauver Areva. Il y a quand même encore besoin d'un certain nombre de fonds. On parle de 7 milliards d'euros qui seraient utiles aujourd'hui à Areva. Où est-ce qu'on va les trouver?
Écoutez, effectivement, il y a encore dans cet accord, il y a quelques codicilles. Un, le problème de la cuve de Flamanville, qu'il faut qu'il soit résolu, et on pense que on aura tous les éléments à partir du premier semestre 2016. Et puis il y a le fameux EPR de Finlande, sur lesquels on ne voit pas très bien comment tout ça va atterrir. Donc 7 milliards, les besoins de 7 milliards, c'est sans doute à peu près 2,7 milliards, soit par EDF, soit par d'autres actionnaires dans la reprise d'Areva NT. C'est la vente de quelques actifs pour à peu près 500 millions. C'est une mobilisation de trésorerie un peu plus serrée. Et puis, c'est une intervention de l'État qui se fera à hauteur de... Le ministre l'a dit, est-ce que c'est 3 milliards, est-ce que c'est 4 milliards? Ça sera vu avec le plan industriel qui sera présenté. Mais le ministre a dit que l'État ferait son devoir en tant qu'actionnaire et qu'il le fera par des cessions par ailleurs de participation de l'État dans d'autres sociétés.
Est-ce que justement le grand perdant de cette affaire, ça n'est pas l'État? Parce que voilà, il va falloir qu'il y ait des cessions, et EDF a réussi à mettre dans l'accord le fait qu'il n'ait pas à payer le surplus pour l'EPR finlandais. Qui va payer ce surplus si ce n'est l'État?
Le grand perdant, enfin on l'a dit d'ailleurs dans notre rapport avec Mariton, le problème c'est quand même qui est posé, c'est la gouvernance des sociétés à capital d'État, et notamment avec la majorité. D'ailleurs, le problème se pose sur l'agence de participation de l'État, sur laquelle il y a d'ailleurs eu quelques mouvements ces derniers jours. Mais aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, l'agence de participation de l'État surveillait les finances, était très avide de toucher des dividendes, bon, ce qu'on peut aussi comprendre, hein, c'est pas du tout... Non, on peut pas acheter la pierre, surtout dans cette période, mais l'intervention, la politique industrielle était au second plan. Il faut à la fois, bien évidemment, regarder les intérêts de l'État, mais il faut aussi une politique industrielle, surtout quand on est dans des secteurs de ce type. Donc je crois que c'est sans doute une réforme de l'APE que nous avons esquissée en filigrane, auquel le ministre va devoir s'attaquer.
Elle va prendre du temps, cette réforme ?
Tout ça dépend de la volonté. Rapidité et de la volonté. J'ai eu le sentiment, parce que j'ai rencontré le ministre, j'ai eu le sentiment qu'il voulait aller relativement vite pour mener à bien cette réforme.
Longtemps, comme on dit, la mariée a été maquillée pour être belle. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'elle ne l'est plus du tout.
Écoutez, c'est l'avenir qui nous le dira, mais je rappelle qu'en dehors de ce rapport avec M. Mariton, j'ai fait un rapport en 2011-2012 sur le rachat d'Uramin, dans lequel je décrivais ce qui allait se passer, parce que quand on parle des pertes de 2014, 4,8 milliards, elles étaient en gestation, si je puis dire, fin 2011, début 2012. Et Uramin. Affaire quand même un peu particulière. Donc, en fait, si vous voulez, le nettoyage, j'espère qu'il a été effectivement fait maintenant en totalité. C'est l'avenir qui le dira. Il y aura bien évidemment encore des contrôles, mais c'est quand même des montants importants, parce que 4,8 milliards en 2014, mais il y avait déjà eu des provisions antérieures relativement conséquentes.
Il y avait 100 millions de pertes en 2013, 500 millions en 2014 et donc 4,8 milliards l'année suivante. Est-ce que, mine de rien, on a aussi longtemps entendu que la santé économique d'EDF n'était pas au mieux, est-ce que cet accord ne va pas handicaper dans un premier temps EDF ?
Non, EDF peut absorber, et d'ailleurs il y a une agence de notation qui a dit si vous mettez trop de fonds dans Areva, on pourrait réviser, puis il y en a une autre qui a dit non, nous on considère que la situation d'EDF est saine. Alors EDF a des investissements importants à effectuer dans les centrales pour suite à l'accident de Fukushima. Mm-hmm. Ils le font. Ils avaient quelques problèmes en Italie qu'ils ont résolus, quelques problèmes en Angleterre qu'ils ont résolus.
Il y a une dette aussi importante.
Il y a une dette importante, mais il y a aussi des résultats bénéficiaires. Alors, il est bien évident que EDF est toujours un peu soumis, et pas même un peu, au prix de l'électricité. Mais
extrêmement contrôlé par l'État, pour le coup.
Contrôlé par l'État. Alors, c'est un peu c'est la schizophrénie, ça. Mais, en fait, il y a quand même un élément qui va peut-être arriver. Vous savez, il y a cette fameuse CSPE qui permettait de financer les énergies renouvelables, qui n'était prise que sur l'industrie nucléaire électrique. Mmh. Or, maintenant, on parle de l'étendre sur l'ensemble des énergies, ce qui permettrait à EDF de lui redonner une marge quasiment intéressante. Et puis EDF a été un moment plombé justement par ses interventions dans le rachat des énergies renouvelables, qui étaient compensées par la CSPE, mais comme les prélèvements de CSPE n'étaient pas assez importants, eh bien EDF a assuré pendant un moment le financement. Alors il y a une dette, une créance sur l'État, avec grâce à mon intervention d'ailleurs à l'époque, le paiement aussi des intérêts, et je pense que EDF a les moyens, à la surface pour assumer.
Alors, en voyant également le bon côté des choses, est-ce que ça ne va pas permettre d'avoir un peu plus de compétitivité à EDF, ce rapprochement ?
Je pense, et parce que ça va nous permettre de ne pas refaire des frais d'études deux fois, ça va nous permettre également, ça va permettre à cette nouvelle entité une meilleure ingénierie, une meilleure conduite de travaux, il y a des services juridiques. Enfin, parce que chez Areva, il y a trois choses qui ont pêché. Il y a l'ingénierie, la conduite des travaux, et en plus de ça, les négociations juridiques, ça fait beaucoup d'ailleurs pour une seule entreprise. EDF a une puissance qui va permettre effectivement d'améliorer tout ça. Et puis, il va avoir des effets de compétitivité avec des économies d'échelle.
On aime bien montrer du doigt ce qui a pêché à un moment ou à un autre. On montre beaucoup du doigt aujourd'hui Anne Lauvergeon. Est-ce qu'elle a, selon vous, une part importante de cet échec d'Areva ?
Alors c'est toujours le problème qui est posé. Il est difficile de refaire l'histoire après. Anne Lauvergeon voulait absolument une intégration totale d'aval en amont. Je crois qu'elle n'avait pas tort sur le fond. Ceci étant, il y a eu des opérations malheureuses. Uramin, on en parlait. Et puis, sans doute que cette concurrence avec EDF a fait qu'on s'est précipité, et notamment dans la construction de l'EPR. Vous savez, normalement c'est un EPR zéro, quasiment. En général, on fait ça sur son territoire, on le fait pas à l'extérieur. Mais là, il a fallu effectivement y aller très très vite. Et je pense qu'on a hâté des choses qui auraient demandé à être effectivement plus structurées.
Encore plusieurs années d'études peut-être ?
Pardon ?
Il aurait fallu encore plusieurs années d'études ?
Il aurait fallu plusieurs années d'études et sans doute une simplification, parce que le problème qui est posé, mais qui est en train d'être résolu, sur les EPR, il y a la courbe d'expérience. Bon, ça, on voit bien, il y a des problèmes à Flamanville, il y en a également en Finlande. Mais il y a aussi le fait renier et sans sur la qualité, sur la sécurité, il y a des économies à faire, parce que là, on est en concurrence avec les Russes, notamment, et il faut qu'on puisse, en dehors de la coupe d'expérience, gagner en productivité, et on peut le faire en améliorant l'EPR, ce qui est en cours depuis 3-4 ans, et là, il faut le dire, en coopération entre EDF et Areva déjà.
Alors, plus on en a parlé des hommes, Bernard Fontana, qui va donc prendre la tête d'Areva NP, l'ancien dirigeant de l'Holcim, vous paraît être l'homme de la situation ?
Écoutez, il a effectivement quelques références. Il va arriver dans une entreprise, si je puis dire, neuve, en restructuration. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Et puis, je pense que tous les acteurs vont être extrêmement attentifs. L'État, c'est évident, et puis le EDF et les nouveaux dirigeants d'Areva. Donc je pense que tout ça va dans le bon sens.
Vous plaidez d'ailleurs dans votre rapport parlementaire pour une réflexion sur le renforcement des instruments de supervision. Supervision entité par entité, mais également supervision globale ?
Oui, vous savez, je disais tout à l'heure, l'APE a pas forcément joué son rôle. Mais est-ce qu'on peut être très bon en nucléaire, être très bon en automobile, être très bon dans autre chose ? Je crois qu'il faut réviser totalement l'APE pour avoir des spécialistes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avoir une véritable vision industrielle. Vous savez, moi j'ai été très longtemps dans la banque, donc je suis plutôt un financier. Et je dirais toujours, les finances, c'est la résultante du reste et c'est relativement simple. Être grand capitaine d'industrie, c'est beaucoup plus difficile, ça demande d'autres qualités, et ça, il faut qu'on y fasse extrêmement attention, parce que on a des secteurs stratégiques, il y a des participations de l'État extrêmement importantes, l'État peut jouer un rôle très, 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 très fort, mais pour ça, il lui faut des compétences.
Vous étiez dès le début, parce qu'on en a aussi un petit peu parlé à un moment ou un autre, contre une fusion totale des deux groupes, pourquoi ?
Parce que j'avais été sans doute un peu influencé par Anne Louvergeon, mais qui disait de façon assez juste, est-ce que pour vendre à l'exportation, on risque pas, en arrivant avec EDF, de dire mais ce sont nos concurrents, puisque eux aussi sont producteurs, ils sont à la fois constructeurs et producteurs. Le problème est moins crucial aujourd'hui, parce que les différents acheteurs se situent dans des endroits en Inde, en Chine, ailleurs, et ils ne craignent pas l'arrivée d'EDF sur leur marché. C'était une crainte qui était à l'époque légitime, qui est sans doute beaucoup moins forte aujourd'hui.
Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ?
Parce que les marchés se sont déplacés. Les marchés sont plus en Europe. Bon, à part la Grande-Bretagne, les marchés sont pratiquement plus en Europe. Ils sont dans des pays éloignés, et EDF ne peut pas, je pense, à la date d'aujourd'hui, être opérateur en Inde ou en Chine.
Aujourd'hui, cette filiale Areva NP, selon vous, comment est-ce qu'elle est vue de l'étranger ? Parce qu'elle est vue notamment, évidemment, à travers l'EPR finlandais.
Ben écoutez, maintenant il faut sécuriser, redonner confiance.
Ça passera par quoi ?
Ben ça passera par un management assez précis. Ça passera par, bien évidemment, la résolution des deux problèmes, qui sont différents d'ailleurs, à Flamanville avec la cuve, en Finlande. A priori, en Finlande, les choses ont l'air de s'accélérer et de s'arranger. Bon, il y a des accords, ça va un peu mieux. Et puis,
Faut quand même préciser qu'il y a eu quasiment 5 milliards de plus mis sur la table.
Absolument, absolument. On est passé de 3 milliards à 8 milliards.
Oui, ça s'arrange quand même à coup de milliards.
Oui, on peut penser que c'est le fruit, effectivement, de ce que je vous disais tout à l'heure, d'études un peu insuffisantes, et puis d'un savoir-faire qui s'était perdu. La dernière centrale nucléaire construite, c'est 15 ou 17 ans, je crois. Et donc, il y a ça. Alors, je crois que la confiance va revenir. On a quand même La preuve, Areva vient de passer un marché relativement conséquent aux États-Unis là pour la maintenance de centrales. Je crois qu'on a quand même un savoir-faire reconnu dans la maintenance, dans tout ce qui fait aujourd'hui le cœur du sujet. Maintenant, il faut recrédibiliser dans la construction des EPR. Ça va être l'objet des prochains mois et des prochaines semaines.
On ne vendra plus des centrales comme on en a vendu auparavant. Vous le disiez, Fukushima est également passé par là. Il faudra du temps tout de même pour que tout ça s'oublie, si tant est qu'on puisse oublier, bien évidemment.
Oui, et en fait, l'erreur qui a été faite chez Areva, c'est il y a eu l'hiver nucléaire après Tchernobyl. On a pensé qu'après Fukushima, ça allait revenir rapidement. Le monde a changé. En plus de ça, il y a quand même des énergies renouvelables. Il y a une nouvelle stratégie mondiale qui prévaut et qui dit il ne faut pas que du nucléaire, il faut favoriser les énergies renouvelables.
Compliqué, du coup, de penser que cette filiale Areva NP a un avenir aussi glorieux qu'a pu être celui d'Areva.
Mais je crois que où on fait erreur, c'est quand on parle du tout nucléaire ou du tout et énergie renouvelable. Je crois qu'on a besoin des deux. Et la Chine en est une preuve, mais il n'y a pas que la Chine. Et même en France, vous avez vu, on a prévu de descendre la production nucléaire à 50% des besoins, mais on n'imagine pas. Alors certains peuvent l'imaginer, mais on n'imagine pas fermer toutes les centrales nucléaires. D'ailleurs, le mix énergétique en Allemagne, on peut pas dire que ce soit une très grande réussite. Ouvrir des centrales à lignite, je suis pas sûr que sur le plan du développement durable, ce soit ce qu'on fait de mieux. Donc je pense que le mixte nucléaire, énergie renouvelable à travers le photovoltaïque, à travers les éoliennes, ça me paraît un mixte intéressant et donc il y a encore une place. Et puis, dites, il y a toute la maintenance et c'est là où sans doute que Areva a toute un marché important.
Ça peut occuper quelques techniciens. Merci beaucoup Marc Gouin d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business, député PS du Maine-et-Loire, donc éco-auteur du rapport parlementaire sur le rapprochement entre EDF et Areva. Merci encore. Vous restez avec nous sur BFM Business à suivre juste après les infos, la librairie de l'écho avec Emmanuel Le Chypre. Et puis quant à moi, je vous retrouverai évidemment demain dès 12h30 pour l'invité de BFM Business. Passez une excellente soirée.